L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Ouadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Paris le général Dominique Delavarde, ancien chef situation renseignement guerre électronique à l'état-major interarmé de planification opérationnelle de l'armée française. Avec lui, nous allons nous intéresser au nouveau commandement des opérations en Europe au sein de l'armée française et à l'impact de cette décision sur la présence de Paris en Afrique. De plus, également de Paris, François Asselineau, président du parti Union Populaire Républicaine, nous exposera comment la politique d'Emmanuel Macron, notamment les sanctions anti-russes, appauvrit les Français. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. La création d'un nouveau commandement terrestre pour les opérations aéroterrestres en Europe a été annoncée le 16 octobre 2023. Selon les médias français et internationaux, il exercera avant tout un contrôle sur les unités militaires existantes, dont certaines sont déjà stationnées en Europe de l'Est. Il s'agit désormais d'un bataillon en Roumanie, de compagnies en Estonie, ainsi que d'instructeurs militaires français stationnés en Pologne qui forment les soldats et officiers des forces armées ukrainiennes. Le chef de l'état-major des forces terrestres françaises, Pierre Schille, a déclaré que cela signifie un retour au problème de défense collective au sein de l'OTAN. Le nouveau commandement est basé à Lille, dans le nord de la France, sous la direction du général Bertrand Toujouze, ancien commandant des forces spéciales et actuel commandant des forces terrestres françaises. La tâche principale du commandement, outre le contrôle des troupes françaises déjà stationnées en Europe de l'Est, est de transférer, si nécessaire, jusqu'à 6000 soldats sur le flanc oriental de l'OTAN. La marine et l'aviation française disposent déjà de commandements correspondants sur le théâtre d'opérations européen. Selon le général Toujouze, les changements dans la structure de commandement des forces terrestres reflètent l'évolution des intérêts géostratégiques de la France. Un double pivot vers l'Europe et une guerre de haute intensité, déclare-t-il. La France participe actuellement à 3 missions de l'OTAN en Europe. Lynx en Estonie avec 300 soldats, formation de soldats ukrainiens en Pologne, mission Eagle en Roumanie avec plus de 1200 soldats d'infanterie et 100 pilotes. En Roumanie, la France est un membre clé de l'OTAN, jouant un rôle de médiateur entre les pays hôtes et le reste de l'Alliance Atlantique. Les Français y dirigent le groupement tactique de l'OTAN, qui comprend également des troupes néerlandaises et belges. Les forces françaises en Roumanie incluent un escadron de chars Leclerc correspondant à une compagnie, un système de défense aérienne Momba et un avion anti-sous-marin Atlantique 2. Fin mai 2023, Macron a déclaré que Paris avait auparavant sous-estimé les pays d'Europe de l'Est en désaccord avec leur politique russophobe. Ainsi, la France, d'une part, s'est finalement identifiée à la ligne anti-russe de l'OTAN. D'autre côté, Paris a tenté de lutter pour son influence sur les pays de la région au sein du système atlantiste où la russophobie est désormais la règle plutôt que l'exception. Comment lire ce recentrage des activités militaires françaises en Europe de l'Est ? Quels sont les dessous des cartes de ce revirement stratégique et quels seront ses impacts sur la sécurité et la paix dans le monde ? Pour parler de ces questions fondamentales, j'ai le plaisir de recevoir depuis Paris le général Dominique Delavarde, ancien chef situation renseignement guerre électronique à l'état-major interarmé de planification opérationnelle de l'armée française à la retraite. Général Dominique Delavarde, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Merci à vous de m'avoir invité.
Tout le plaisir est pour nous, général. Alors, bien au-delà de l'échec de la contre-offensive ukrainienne, dont les médias occidentaux se sont fait les porte-parole, ainsi que leurs experts de plateau, l'opération spéciale militaire russe en Ukraine a définitivement fait évoluer les alliances mondiales vers un monde plus multilatéral. La montée en puissance des BRICS et de l'organisation de coopération de Shanghai en est la première conséquence. Alors, général de Lavade, que pensez-vous? Cette réorganisation de l'ordre géopolitique ne constitue-t-il pas le vrai centre de gravité du conflit en Ukraine et dernièrement à Gaza? Et alors que les États-Unis et l'Union européenne sont de plus en plus isolés dans leur guerre hybride contre la Russie, comment peut-on expliquer le redéploiement des forces terrestres françaises venues d'Afrique en Europe de l'Est?
Alors d'abord, on va éliminer tout de suite le problème du redéploiement des forces françaises vers l'Europe centrale. Bon, je pense que ce redéploiement est plus une affaire de gesticulation, on va dire, que de réalité. Il y a eu ce commandement créé récemment en Europe pour l'Europe de l'Est, mais quand on regarde bien, un commandement, s'il n'a pas de force derrière lui, c'est rien du tout. L'OTAN, qui est aussi un état-major florissant, qui a tous ses effectifs, n'a derrière lui que peu de moyens.
Là, vous parlez de l'Alliance Atlantique, hein, pas uniquement des forces françaises.
L'Alliance Atlantique, oui, d'accord. Oui, bien sûr. Oui. L'Alliance Atlantique n'a pas beaucoup, beaucoup de moyens. Ça se compte en régiments. Regardez la participation de la France. Hein. Faites le bilan de toutes les forces françaises déployées à l'Est. Arrive à aller à tout casser à 1500 hommes. Donc,
c'est ça,
on
ne
fait pas la guerre à la Russie avec 1500 hommes pour la France. Et même si on rajoute les forces de l'OTAN déployées là-bas, on n'a pas les moyens. Et d'ailleurs, si on les avait, on serait en guerre depuis longtemps avec la Russie. Hein. Donc
d'accord.
Le fait que la Russie a déjà gagné, on va dire presque dès le premier jour, parce qu'à partir du moment où un pays s'engage en ayant une supériorité aérienne totale, une supériorité d'artillerie totale, une supériorité de défense anti-aérienne totale, on ne voit pas comment son adversaire pourrait gagner la guerre contre lui. D'autant que les économies ukrainiennes et russes sont très très en faveur de la Russie. Hein, tout va bien en Russie pour l'instant pour l'économie, qui sera en croissance cette année de l'ordre de 3%, alors que l'économie ukrainienne, elle, s'effondre et ne peut continuer à fonctionner que grâce au soutien occidentaux des économies occidentales qui, elles aussi, s'effondrent. Nous sommes aujourd'hui dans le bras de fer gigantesque au niveau mondial entre deux camps, celui de l'Occident otanien d'un côté, mondialiste, globaliste, et celui de des pays qui soutiennent la multipolarité de l'autre. Bon, la multipolarité a d'ores et déjà gagné aussi sa guerre. Elle l'a gagnée au niveau mondial, au niveau économique, au niveau de l'adhésion qu'elle suscite dans les pays du monde entier. Aujourd'hui, tous les pays du monde, du sud global en particulier, d'Afrique, d'Amérique du Sud, et même d'Asie, ambitionnent, et certains pays d'Europe aussi, ambitionnent d'appartenir aux BRICS plutôt que d'appartenir au camp de l'OTAN. Et le camp de l'OTANien a d'ores et déjà perdu son bras de fer au niveau mondial et au niveau économique mondial. Et qui perd en économie perd la guerre ou perd le bras de fer. Hein. Le bras de fer est avant tout économique. Si on a une bonne économie, on peut soutenir des guerres, on peut armer ses soldats, on peut leur donner les moyens. Si les économies occidentales ne vont pas bien, elles ne pourront pas demain réparer ce qui a été endommagé hier. Voilà, donc moi, ce que je dis, c'est que la partie est d'ores et déjà gagnée pour la multipolarité, et je ne vois pas comment elle peut s'en sortir. Elle n'a aucune autre porte de sortie, et on voit avec l'affaire de Gaza, oui, hein, que l'Occident se décrédibilise de plus en plus au niveau mondial, voire au niveau de ses propres opinions publiques.
Ouais.
au niveau de ses propres opinions publiques.
L'élan de ce que vous venez de développer, général de Lavarde, j'aimerais bien revenir quand même à ce qui est central, en tout cas pour l'Europe, et qui est la question de l'énergie. Alors, depuis le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2, et le débat sur les responsabilités restera comme l'un des grands épisodes de la désinformation du camp atlantiste dans ce conflit en Ukraine. Mais le silence complice des États européens, justement, dans cette affaire-là, concernés, qui sont l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, directement visés aussi par cet acte terroriste qui peut être assimilé à un cadre de guerre, révèle quand même le degré sans précédent de soumission géopolitique de cette classe politique européenne à Washington. Et ma question, le soi-disant allié principal des Européens à Washington n'a-t-il pas commis un acte de guerre avec ça contre les alliés de son propre camp, démontrant que le conflit en Ukraine est une guerre provoquée et entretenue par les États-Unis, non pas seulement contre la Russie, mais contre l'Europe tout entière? Comment peut-on expliquer que dans cet état-là, ce que vous venez de développer dans la première question, est-ce que... Je ne pense pas, enfin moi en tant que journaliste, je ne conçois pas que les dirigeants des pays européens n'ont pas compris que la guerre est perdue et comment vous expliquez tout ça?
Oui, ils l'ont compris, hein. Ils ont parfaitement compris que c'était les USA qui avaient concocté la destruction du Nord Stream et ils ont compris aussi aujourd'hui, ils comprennent. Que leur économie va être impactée et que le but réel des États-Unis était non pas d'aller gagner une quelconque guerre en Ukraine contre la Russie, mais surtout d'affaiblir les économies de l'Union européenne pour mieux les soumettre. Alors comment tout ceci fonctionne? Bon, tout simplement, la géopolitique ou la politique étrangère de chacun des États est faite par des hommes. Et ces hommes qui dirigent les pays occidentaux sont aujourd'hui issus de la même école, celle des Young Leaders, celle des néoconservateurs US, globalistes, mondialistes, qui ont métastasé en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, et qui aujourd'hui sont unis. C'est pas une union de pays, c'est une union de lobbies transnationaux, hein, qui dirigent les pays. Ce sont ces personnes-là qui dirigent leur pays, hein, souvent en déconnexion avec leurs propres opinions publiques, mais ils s'en moquent un peu de leurs opinions publiques. Hein. C'est eux qui ont le pouvoir aujourd'hui, c'est eux, ils vont probablement perdre les prochaines élections parce que leur gestion aura été désastreuse, mais ça n'est pas... Ils se sont liés par un espèce de pacte mondialiste. Et ils essayent jusqu'au bout de jouer leur carte. Mais leur carte aujourd'hui est en train d'être perdue. Notre ami ennemi, qu'on appellera les USA, sont aujourd'hui en train de se décrédibiliser par leur attitude jusqu'au boutiste dans la guerre entre Israël et Gaza. Mmh. Hein. Tout ça, il faut le voir au niveau géopolitique mondial. Hein. Et en se décrédibilisant en Palestine, tous ces gens sont en train de faire perdre leur cause mondialiste. Hein, plus personne aujourd'hui ne souhaite adhérer à ce monde qu'on voudrait nous imposer, hein, que nos dirigeants voudraient nous imposer en jouant une politique russophobe, hein, puisque c'est ça, hein, se mettre... en ennemi, se placer en ennemi jusqu'au boutiste contre la Russie, mais pas que, contre la Russie, la Chine et la multipolarité, c'est ça l'enjeu. La Russie n'est vue que comme un pion dans la multipolarité, pas un petit pion, hein. C'est la reine, on va dire, sur un jeu d'échecs, hein, c'est celle qui a le plus de pouvoir, hein, sur l'échiquier mondial, donc c'est elle qu'il faut détruire. Hein. Voilà. D'accord. Donc, La politique occidentale, c'est ça.
Bien. Alors, continuons sur le même élan, sur la question là du départ des forces françaises d'Afrique, notamment des trois pays du Sahel, le Burkina, le Niger et le Mali. Alors, auparavant, la France recevait une bonne partie de sa consommation en uranium du Niger. Et après le coup d'état militaire donc de cet été, les approvisionnements ont été suspendus et les travaux de plusieurs entreprises minières d'uranium ont été arrêtés aussi. Et à cet égard, l'industrie nucléaire française doit rechercher de nouvelles sources d'uranium. Et il s'agit également d'une question de sécurité nationale parce que la France d'abord c'est une puissance nucléaire et puis aussi l'énergie électrique électronucléaire, elle représente quand même environ 80% de la consommation nationale. Et on a début novembre, Emmanuel Macron s'est rendu au Kazakhstan et en Ouzbékistan. Donc, et le sujet clé était apparemment, en tout cas selon les médias français, l'uranium. Alors, Général de Lavarde, on ne comprend pas ici en Russie une chose. Les États-Unis, à ce jour, au moment où je vous parle, achètent leur combustible nucléaire de Russie. C'est la Russie qui livre le combustible nucléaire pour les Américains. Alors, pourquoi la France envisage-t-elle d'accéder à l'uranium de l'Asie centrale, qui devrait être exporté en contournant la Russie, via la mer Caspienne, puis l'Azerbaïdjan et la Turquie ou la Géorgie, et des manœuvres qui, sont toutes, nécessitent une coordination avec la Turquie et avec qui la France n'a pas de bonnes relations. Alors, pourquoi toute cette gymnastique alors que reprendre parole et reprendre le dialogue avec la Russie serait quand même la meilleure voie?
Bon, ce sera la voie qui sera finalement... la voie qui sera finalement reprise à la fin du grand jeu qu'on mène aujourd'hui en Ukraine et en Palestine. Hein. Donc tout ça va rentrer dans l'ordre progressivement. Alors pourquoi la France s'intéresse-t-elle au Kazakhstan et à l'Ouzbékistan lors de ses récentes visites, hein? C'est que tout simplement notre président a de la peine à exister sur la scène internationale aujourd'hui. Les Français et la France se sont fait éjecter de l'Afrique, hein, pratiquement pas encore partout, mais presque, et ça sera le cas demain, hein, parce que les méthodes employées et le mépris affiché de la France qui donne des leçons à tout le monde a été la goutte qui a fait déborder le vase en Afrique, hein. Et puis l'Afrique est tentée par la multipolarité, on le voit tous les jours, hein, les pays joignent ou essayent de faire des partenariats de défense avec la Russie. Hein, il y en a encore eu trois ou quatre la semaine dernière. Hein, voilà quoi. Donc le président Macron, il a besoin d'exister sur la scène internationale, donc il cherche des pays qui ne lui ferment pas complètement la porte. Le président du Kazakhstan, Tokayev, est un homme qui est poli. Donc, il a reçu le président Macron. Il a reçu plusieurs présidents, hein, au cours des dernières semaines.
Oui, effectivement.
Il a reçu le président hongrois, Viktor Orban. Il a reçu le président Poutine.
La semaine dernière.
Il a reçu, bien sûr, le président Macron. Bon, on voit bien que dans ces trois visites et la manière dont elles ont été conduites sur le terrain... Au Kazakhstan, on voit bien que Tokayev fait une différence fondamentale entre ses interlocuteurs. Hein. Par exemple, il a remis la plus haute distinction de son pays au président Orban. Il ne l'a pas remise, à ma connaissance, au président Macron. Hein. Donc, Orban a été plus chaleureusement accueilli et depuis longtemps, d'ailleurs. Il a été accueilli en ami. Le président Macron a été accueilli en partenaire commercial, et pas de tout premier niveau. Hein. On n'est pas dans les trois premiers partenaires commerciaux du Kazakhstan. Hein. Donc, voilà. Bon, la France cherche à exister, tout simplement. Alors, évidemment, elle a besoin d'uranium. Évidemment, l'uranium du Niger, je dis pas terminé, mais ça sera pas terminé, ça reviendra. Hein.
Oui.
Mais pour l'instant, on veut montrer au Niger qu'on n'a pas besoin de lui et qu'on est capable de gérer notre problème d'uranium sans lui. Donc, et pour l'instant, Monsieur Macron n'est probablement pas un partenaire bienvenu. Il se souvient de l'incident de la table très longue avec le président Poutine d'un côté et le président Macron à 10 mètres de distance au moment de la crise Covid et au moment des pourparlers juste avant l'opération spéciale.
Ouais.
Donc le président Macron ne veut pas subir une nouvelle humiliation en Russie par les temps qui courent. Donc il va chez le président le plus poli de la région et il multiplie les voyages à l'étranger, pas seulement au Kazakhstan et en Ouzbékistan, hein, parce que ses voyages en France, finalement, il est mieux accueilli à l'étranger qu'il est accueilli en France, hein, parce que les dirigeants étrangers sont polis. Mais quand il sort en France, par exemple, quand il va au Stade de France pour ouvrir la Coupe du Monde de rugby, bon, il est pas très bien accueilli par la foule, on va dire. Hein. C'est gentil ce que je dis, quoi. Le président Macron n'est pas apprécié chez lui, donc il cherche ailleurs des moyens d'exister.
D'accord. Chers auditeurs, pour mieux comprendre la situation en France et notamment la situation économique, je vous invite à écouter l'interview que mon collègue Anthony Lefebvre a réalisé avec François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine.
Vous avez écrit sur les réseaux sociaux qu'Emmanuel Macron appauvrissait sciemment les Français pour maintenir les sanctions contre la Russie et rester coûte que coûte dans le marché européen de l'électricité. Comment les sanctions contre la Russie ont joué un rôle dans l'aggravation du pouvoir d'achat des Français ?
Les sanctions contre la Russie se retournent en fait contre les pays de l'Europe, au premier rang desquels l'Allemagne et la France, puisque nos économies fonctionnaient notamment avec, s'agissant de l'Allemagne, l'approvisionnement en gaz russe, qui a l'avantage d'être un gaz de grande qualité, facilement exploitable, continuellement servi et à un prix tout à fait raisonnable. Vous savez qu'à cause des sanctions contre la Russie, puis à cause de l'explosion de Nord Stream, désormais les pays d'Europe ne peuvent plus acheter directement du gaz à la Russie. Ce qui signifie que soit ils en achètent en fraude par rapport à leurs propres sanctions, puisque nous sommes dans un monde de fait de beaucoup d'hypocrisie. Donc la France, l'Allemagne continuent à acheter du gaz russe, mais par l'intermédiaire de l'Azerbaïdjan ou du Pakistan, et ils le payent le prix fort, puisqu'ils payent des intermédiaires. Soit ils sont obligés d'acheter du gaz à base de schiste qui est produit aux États-Unis et que les Américains nous vendent extrêmement cher, 5 à 6 fois le prix de revient. Donc ça veut dire que le prix de l'énergie, du moins pour ce qui concerne les hydrocarbures, et notamment le gaz, qui faisait tourner beaucoup de l'industrie allemande, ça a beaucoup grimpé. Et donc, c'est évidemment au détriment du niveau de vie des gens. Alors, ici, ajoute à ceci un système complètement délirant, c'est l'idéologie au pouvoir. Dans le cadre du marché européen, il a été décidé de fixer un prix de l'électricité qui serait une espèce de prix européen. Et dans le cadre des négociations qui ont eu lieu il y a déjà un certain nombre d'années, il a été convenu que ce prix européen serait fixé à partir du prix de l'électricité produite par les centrales, les turbines électriques qui existent en Allemagne et qui sont fondées justement sur des centrales à gaz. Donc lorsque le prix du gaz était modique, ça pouvait aller, mais lorsque le prix du gaz s'envole comme c'est actuellement le cas, bien évidemment ça fait grimper considérablement le prix de l'électricité du marché européen de l'énergie. Alors c'est d'autant plus néfaste pour la France que nos ancêtres, enfin nos aïeux, nos parents, nos grands-parents, du temps où la France était dirigée par quelqu'un qui recherchait l'intérêt national, je veux parler notamment de Charles de Gaulle, puis de ses immédiats successeurs que furent Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, nos parents, nos grands-parents ont construit un vaste réseau de centrales nucléaires qui est devenu le premier réseau du monde et qui a produit une énergie très bon marché, une électricité bon marché, assurant notre indépendance nationale et de façon tout à fait continue, sans rupture. Si nous n'étions pas dans le marché européen de l'électricité, au lieu d'appliquer le prix qui dépend des centrales à gaz allemandes qui s'est envolée du fait de la rareté maintenant du gaz et donc des sanctions prises contre la Russie, eh bien nous aurions le prix produit par nos centrales nucléaires qui est beaucoup moins cher. C'est un véritable scandale et ça pèse en effet sur le niveau de vie des Français. Tout ça pour dire, pour résumer, nous sommes dirigés en France, en Europe en général et en France en particulier, par des gens qui n'ont pas le niveau intellectuel pour cela, qui sont victimes de ce qu'ils entendent ici ou là, des modes à la radio ou à la télévision, et puis qui sont surtout très lâches pour résister face aux lobbies qui s'exercent sur eux. C'est vrai de l'énergie comme c'est vrai de beaucoup d'autres choses, notamment en matière internationale.
Je vais revenir avec vous sur la pauvreté en France. Selon le Secours catholique français, les trois quarts de ces bénéficiaires vivent dans une situation d'extrême pauvreté, alors que en 2017, le chiffre était de 65%. Le porte-parole du gouvernement français, Olivier Véran, a assuré que l'État luttait contre la pauvreté en investissant chaque année davantage. Mais pourquoi la pauvreté augmente-t-elle au contraire ?
Alors vous avez raison de rappeler ces chiffres qui sont tristes et que toute personne visitant la France d'ailleurs ne peut que constater, puisque l'on voit de plus en plus de mendicité dans les rues des grandes villes de France, voire des sans domicile fixe, des gens qui dorment dans la rue. On voit ça d'ailleurs dans beaucoup de villes d'Europe et du monde occidental. La situation est catastrophique dans certaines villes américaines, comme à San Francisco désormais. Mais la France est touchée de plein fouet. Alors, il y a à ça plusieurs phénomènes qui sont convergents. Il y a d'abord la mode de l'ultralibéralisme, avec une réouverture de l'éventail des salaires, où on a une toute petite classe dirigeante peuplée de quelques centaines, voire de quelques milliers de personnes tout au plus, qui se servent des salaires ou des revenus absolument considérables. Et puis à l'autre bout de l'échelle, en revanche, une classe qui est en voie de paupérisation. Ça, c'est les conséquences de la vision ultralibérale de l'économie. Deuxièmement, on a, en s'agissant de la France, le problème de l'euro. L'euro est une monnaie qui est cotée sur les marchés internationaux plus cher que ne serait le franc, puisque l'euro intègre dans son panel une part importante de l'économie allemande qui, jusqu'à récemment, jusqu'au désastre de Nord Stream, était une économie qui était quand même très puissante. Donc l'euro, depuis des années maintenant, est trop cher pour la compétitivité intrinsèque de l'économie française. Ça veut dire notamment, que nous avons de plus en plus de mal à vendre nos produits à l'extérieur, ils sont de moins en moins compétitifs et on enregistre un déficit commercial absolument géant. Alors quand on enregistre un déficit commercial, ça veut dire qu'on importe des biens fabriqués à l'étranger moins chers et donc évidemment ça crée du chômage qui de nouveau recommence à monter. On a appris ces jours-ci que le taux de chômage en France était passé à 7,4%.
J'y reviendrai tout à l'heure justement. Il est passé de 7,2 au deuxième trimestre de l'année 2023 au chiffre que vous venez d'énoncer pour le troisième trimestre de cette même année 2023.
Voilà, de 7,2 à 7,4, c'est pas encore des chiffres dramatiques, mais le problème c'est que ces statistiques sont de notoriété publique truquées. Alors vous me permettrez peut-être de conclure, parce que je parle sur Radio Sputnik, c'est qu'en France, on a expliqué aux Français que la Russie était dans une situation absolument catastrophique à cause des sanctions, que la Russie se portait très très mal, etc., etc. Mais malheureusement pour la France et heureusement pour les Russes, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que actuellement, par exemple, notre endettement extérieur, notre endettement public qui est de 112% du PIB, l'endettement de la Russie, c'est 16% du PIB et je crois 15%
d'endettement extérieur. 15% même, on a atteint ce minimum historique, oui.
Voilà, donc ça veut dire, c'est un exemple, il y a aussi le taux de croissance. Le taux de croissance de la Russie est de 2,8% en ce moment. Nous, on aimerait beaucoup avoir un tel taux de croissance. On est aux alentours de 0,5 et encore avec des statistiques qui sont peut-être truquées. Voilà, donc tout est dans la même situation. Au lieu de défendre les intérêts nationaux, Monsieur Macron poursuit des chimères parce qu'en fait, il fait la politique non pas que veulent les Français, il fait la politique pour laquelle une oligarchie de milliardaires qui obéissent aux États-Unis d'Amérique nous l'a catapulté à la place de chef de l'État en monopolisant les grands médias en sa faveur et en cachant ceux qui ne plaisaient pas à l'oligarchie. Donc on en est là. La situation politique en France est extrêmement mauvaise. Elle est à l'image de la situation économique et sociale.
C'était François Asselineau, président du parti Union Populaire Républicaine. Au micro de Spoutnik Afrique, il a exposé comment la politique de Paris, notamment les sanctions anti-russes, appauvrit les Français. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le général Dominique Delavarde, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. À tout de suite. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zone de Contact et Afrique en Marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le général Dominique Delavarde, ancien chef situation renseignement guerre électronique à l'état-major interarmée de planification opérationnelle de l'armée française à la retraite. Général Delavarde, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de l'émission. Bien, alors pour continuer sur cette question-là de géopolitique européenne, le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 par Washington, tout le monde le sait d'ailleurs, ce n'est un secret pour personne, puisque le président Biden lui-même l'a déclaré des semaines avant que cela n'arrive. Donc, s'inscrit dans le sillage de la stratégie géopolitique de fragmentation de l'Europe pour torpiller toute entente européenne, mais aussi eurasienne potentielle sur un axe Paris-Berlin-Moscou. On le sait depuis Spikman, les géopolitologues Spikman, Brzezinski, ce qui fait peur, qui fait couler la sueur froide aux atlantistes, c'est de voir, comme le disait le général de Gaulle, une Europe de l'Atlantique à l'Oural ou actuellement de Lisbonne jusqu'à Vladivostok. Et de poursuivre une grande stratégie d'encerclement de l'Eurasie contre la Russie, la Chine, afin de préserver sa suprématie en Europe et dans le monde. Alors, l'Union européenne est la dernière zone dans le monde où les États-Unis peuvent encore exercer leur hégémonie sans obstacle réel aujourd'hui. Mais ma question, peuvent-ils maintenir la pression dans la durée sur la classe politique européenne? Et est-ce que terroriser les Européens, in fine, par des actes terroristes comme le sabotage des gazoducs, serait-il le moyen des néoconservateurs US qui constituent une menace géopolitique majeure pour les nations européennes, vous l'avez dit tout à l'heure, en particulier la France et l'Allemagne?
Ce que je pense, moi, c'est que les peuples européens, vont changer leurs dirigeants. À un moment ou à un autre, ils vont les rejeter parce qu'ils se rendent compte que cette gestion soumise aux États-Unis n'est pas la bonne et qu'on est en train de s'auto-sanctionner tous les jours. Donc, ce que je pense, c'est que la pression dans la durée, elle ne pourra pas durer. La pression, pour l'instant, des États-Unis, elle existe parce que les États-Unis restent une grande puissance économique et militaire, mais tout ça va évoluer très rapidement. Hein. Les États-Unis, aujourd'hui, perdent chaque jour un peu plus de leur puissance économique. Hein, les bons du trésor américain, plus personne n'en veut sur la planète.
Absolument.
Donc le dollar, ça sera une monnaie qui va péricliter, on va dire, hein, qui ne sera de moins en moins utilisée comme monnaie d'échange international. Alors ça va prendre du temps, hein. Je ne dis pas que ça va arriver en un jour, mais on est sur la voie du déclin inexorable de l'économie, de la puissance économique US et aussi de la puissance militaire, puisque les deux sont liés. Il ne peut pas y avoir de puissance militaire sans une puissance économique derrière. Hein, tôt ou tard, l'Amérique sera obligée, pour des raisons de coûts financiers d'économie, elle sera obligée de rapatrier bon nombre de ces bases, de ces 800 bases qu'elle a semées dans le monde entier et qui sont aujourd'hui à l'origine des problèmes que nous connaissons, hein, des chaos sur la planète. Ces ingérences permanentes des États-Unis dans les affaires des autres. Hein, et ça, les populations européennes commencent à s'en rendre compte. Aujourd'hui, avec notamment le double standard qui est appliqué dans l'affaire entre l'Ukraine et l'affaire de la guerre entre Israël et Gaza, on voit bien que les États-Unis n'ont pas de règle unique.
On peut même rajouter le fait que, enfin, ce double standard donc est clair, mais il y a une chose aussi qui n'est pas trop citée dans les médias, c'est que les Occidentaux soutiennent Israël parce qu'ils accusent le Hamas d'être un mouvement terroriste, mais en même temps, ils soutiennent les terroristes à Idlib, en Syrie.
On est bien d'accord. Hein,
voilà. Donc, il est un peu écarté dans les médias. Et on ne dit pas aussi, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a une différence entre le Hamas qui est à l'intérieur de Gaza et ceux qui sont à l'extérieur et qui ont combattu avec les Américains et qui ont combattu avec les Israéliens en Syrie contre le Hezbollah et contre le... vraiment, c'est une espèce de nef de fou.
Oui, moi, ce que je dis, c'est que les factions armées palestiniennes qui sont à l'intérieur... qui se battent sur leur territoire hein, pour exister, quoi. Après 75 ans d'enfermement dans une prison à ciel ouvert, sont légitimes à se révolter. Hein. Il y a eu, avant Gaza, dans les révoltes connues, il y a eu le ghetto de Varsovie, hein, il ne faut pas l'oublier.
Absolument.
Et là, ce n'étaient pas les mêmes qui étaient enfermés et ce n'étaient pas les mêmes qui réprimaient. Donc, les répressions... soutenir pour les Occidentaux la répression disproportionnée et aveugle de l'État hébreu contre les Palestiniens est une des causes de leur décrédibilisation. Ils sont décrédibilisés par leur soutien à un État qu'on peut qualifier aujourd'hui, je regrette, hein, c'est triste à dire, mais de terroriste.
Ouais.
C'est un État terroriste. Quand on tue 11 500 personnes, alors qu'on on déclare aujourd'hui hein, avoir eu 1 200 morts dans sa propre population en Israël, hein, dont une large part a été tuée par l'armée israélienne elle-même lors de tirs indiscriminés, hein, comme ils ne pouvaient pas distinguer les terroristes des civils israéliens, ils tiraient dans le tas et ils ont tué une bonne partie, selon des témoignages.
De nombreux
témoignages dans la presse israélienne, parus dans la presse israélienne, ils ont tué une bonne partie des 1200 Israéliens qui ont trouvé la mort lors de la journée du 7 octobre. Donc tout ça, si vous voulez, le monde entier commence à le savoir. Et le monde entier condamne aujourd'hui de plus en plus la position des Européens hein, de soutien inconditionnel à Israël et la position américaine. Hein. Et cela nous montre quelque part la véritable nature des lobbies transnationaux pro-Israël qui règnent en maître aux États-Unis. Hein, de nombreuses études l'ont montré, en particulier celle du docteur John Mearsheimer,
oui.
Le géopoliticien le plus connu aux États-Unis. Donc les lobbies pro-Israël ont la main, tiennent le haut du pavé aux États-Unis et en Union européenne. Voilà.
Mais il y a une chose qui est quand même étonnante ici, Général de Lavarde, quand on voit des militaires, moi c'est une question qui me vient à l'esprit, et je vous la pose autant que militaire aussi, quand des avions bombardent des civils, ils tuent des civils, je me demande où est donc le droit humanitaire, où est le droit militaire, et puis au-delà de tout ça, où est l'honneur du militaire
Oui, mais vous avez raison, hein, vous avez raison, mais bon, le militaire est tenu, et c'est pas lui qui commande, hein, les armées et les gouvernements sont dirigés par des politiques au prétexte qu'ils sont élus. Et donc, ce sont ces élus qui donnent les ordres.
Mais quand ils donnent des ordres pour tuer des civils avec des bombes de précision, parce que, disons-le, ou disons les choses comme elles sont, c'est-à-dire que les F-15 et les F-16 utilisés par le Tsahal, ce sont des avions qui tirent des bombes et des missiles de précision. Donc, ils ne peuvent pas dire que nous avons touché l'hôpital par accident ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que le droit militaire donne le droit à un militaire de refuser un ordre quand il voit que il va à l'encontre de...
Vous avez raison, vous avez raison. Le droit humanitaire, vous savez, c'est un droit qui... Il y a deux États au monde qui s'estiment au-dessus du droit humanitaire, au-dessus des lois internationales. C'est Israël, qui n'a jamais respecté, qui a violé 225 résolutions des Nations Unies à ce jour. Et puis les États-Unis, bien sûr, hein, qui se considèrent comme une nation exceptionnelle. Hein, qui est au-dessus des lois. Donc les lois humanitaires, les lois internationales, c'est seulement pour les autres, mais pas pour les États-Unis et pas pour qui fixent les règles. Hein. C'est eux qui disent les règles, c'est ça et ça. Et ceux qui n'appliquent pas nos règles, ils sont dans le camp du mal. Hein. Donc c'est eux qui définissent le camp du bien, le camp du mal. Bon, et donc... en plus, ils ne considèrent pas les Palestiniens comme des êtres humains, hein, les Israéliens. Ils les considèrent, et ils l'ont dit, certains d'entre eux l'ont dit, hein, et le ministre de la Défense israélien, Gallant, les Palestiniens sont des animaux, hein, donc on va les traiter comme tels.
Bien, alors on va revenir quand même au rôle de la France dans la région de l'Asie centrale. Si en Asie centrale, la France parle principalement de coopération économique, bien que dans un secteur stratégique comme le nucléaire. Alors, dans la partie européenne de l'ex-URSS, les composantes militaires et militaro-politiques sont de la plus haute importance. En octobre, par exemple, les médias ont fait état de la volonté de la Moldavie et de la France de conclure un accord dans le domaine de la défense. Et selon le ministre français de la Défense, une mission militaire française permanente interviendra en Moldavie. Qu'est-ce qui explique la volonté de Paris de développer une présence militaire en Moldavie, presque au contact de la Russie ?
Oui, ben là, toujours pareil, hein, on est dans la gesticulation. C'est-à-dire que la France, de toute manière, elle a des moyens qui se sont libérés grâce au fait qu'elle ait été éjectée d'Afrique, on va dire. Hein. Donc, elle cherche à exister encore sur le plan international. Elle voit bien, la France, que son image se dégrade, que son image dans le monde entier se dégrade. Donc elle cherche à exister dans les pays où on accepte encore sa présence. Donc la Moldavie, là encore, le chef d'État moldave doit être un chef d'État poli, quoi, qui dit pas non à la diplomatie française, quoi, qui a accepté que quelques formateurs français viennent exercer leur talent en Moldavie. Bon, tout ça, ça ne va pas, ça n'est pas une présence, ça sera une présence qui se comptera sur les doigts non pas d'une main, mais des deux mains peut-être, une douzaine, une vingtaine de personnes, et c'est à peu près tout ce qu'on est en mesure d'offrir à la Moldavie. Donc, et on baptise ça, vous savez, ça m'amuse beaucoup. Les Occidentaux ont souvent des mots qui dépassent largement ce qu'il y a derrière. Par exemple, quand on parlait pour la Syrie d'Office syrien des droits de l'homme, c'était quoi ça, l'Office syrien des droits de l'homme? C'était un bonhomme tout seul, un homme tout seul, basé à Londres, avec un ordinateur, et qui se contentait de répéter ce que le MI6, le service de renseignement britannique, lui disait de dire. Donc c'est ça, hein, l'Office syrien des droits de l'homme. Un homme, un ordinateur basé à Londres. Bon, c'est tout ça, c'est du blablabla. Hein. Et donc, la formation des Moldaves en Moldavie ou en France, je n'en sais rien, hein, d'ailleurs, où elle se passera, puisqu'on forme des Ukrainiens en France, hein, et des soldats qu'on va condamner à mourir demain en les envoyant comme chair à canon contre la Russie. Bon, ben, si vous voulez, tout ça, c'est de la gesticulation. Donc, moi, je ne vois pas de grand redéploiement de la France en Europe de l'Est. Tout ça, c'est... Là encore, on est dans la
communication. Général, si c'est fait dans le cadre de l'OTAN...
Non, mais même dans le cadre de l'OTAN, si vous voulez. L'OTAN, je le répète, hein, c'est un état-major de 2000 personnes, et c'est à peu près la seule chose qui fonctionne, hein, c'est l'état-major. Mais derrière, les moyens ne suivent pas. Hein. Un état-major sans force derrière, sans des effectifs nombreux, équipés, armés, entraînés, avec des matériels modernes, etc., tout ça, ça n'a aucun sens d'avoir un état-major tout seul, ou d'avoir ce qu'on appelle une mission permanente de formation, etc. Ça n'a aucun sens si derrière, il n'y a pas une puissance réelle, physique, hein, qui vient appuyer tout ça. Et l'OTAN, aujourd'hui, je regrette de le dire, hein, mais je le dis à peu près partout, l'OTAN, c'est rien du tout. Aujourd'hui, moi, quand je suis rentré dans l'armée française dans les années 1970, il y a un demi-siècle, il y avait 1400 chars de combat principaux, main battle tanks. Il y en avait 1400. Aujourd'hui, vous savez ce qu'il en reste ? 200. Alors bon, il y a un moment où les 200 dont on n'est pas sûr qu'ils marchent tous, parce que la disponibilité opérationnelle, technique des matériels n'est pas à 100%. Il y a toujours des matériels en réparation qui, pour certains matériels majeurs, cette disponibilité n'est pas de la moitié. Et pour les hélicoptères, par exemple, d'attaque, on est très inférieur à la moitié de disponibilité opérationnelle technique. Donc, on a des matériels, et derrière cet état-major de l'OTAN brillant, l'Union européenne, je regrette, France, plus Royaume-Uni, plus Allemagne, c'était 600 chars avant qu'on en donne quelques-uns à l'Ukraine. 600 chars. Bon, on ne fait pas la guerre à la Russie, on ne gagne pas une guerre contre la Russie avec 600 chars, je regrette. On a un état-major, l'OTAN, mais derrière, l'OTAN est en déliquescence. Et c'est pour ça que l'OTAN n'a pas entamé la guerre contre la Russie, et a envoyé un proxy pour se faire tuer à sa place, et pour essayer d'affaiblir la Russie. Mais bon, ils n'y parviennent pas, évidemment, hein. Et l'OTAN n'interviendra pas militairement en Russie parce qu'elle n'a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens de gagner une guerre de haute intensité. Le reste, ceux qui le disent, ils font de la propagande. Il faut compter les chars, il faut compter les moyens qu'on a, et on n'en a pas. On n'en a pas. Il y a 4 jours de munitions. D'ailleurs, je ne suis pas sûr du tout qu'on ait plus de 4 jours. On a donné nos munitions et nos armements aux soldats ukrainiens pour qu'ils aillent se faire tuer à notre place. Bon, donc, c'est réglé, quoi.
D'accord. Alors, début octobre, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a annoncé son accord de principe pour fournir du matériel militaire français à l'Arménie. Et plus tard, des informations sur la fourniture de systèmes de défense aérien français à Erevan aussi ont été confirmées par Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense. Et puis, il y a un autre domaine de coopération, c'est la formation de troupes arméniennes par des instructeurs français. Alors, en Arménie, la France cherche à évincer la Russie et de l'autre à créer un contrepoids avec la Turquie qui soutient l'Azerbaïdjan. Et je rappelle aussi Israël, que la France soutient contre Gaza, a soutenu l'Azerbaïdjan. C'est comme ça qu'il a repris le Haut-Karabakh. et Paris et Ankara entretiennent des relations en même temps, c'est-à-dire tendues sur un certain nombre de questions au sein de l'OTAN lui-même, principalement sur les problèmes de la Méditerranée orientale et de l'Afrique du Nord. Et comment voyez-vous, Général de Lavarde, le rôle de la Turquie dans ce jeu? Par exemple, elle est la main dans la main avec Israël pour soutenir l'Azerbaïdjan avec tous les moyens pour prendre le Haut-Karabakh. Et puis, d'un côté, par exemple, à Gaza, on voit le président Erdogan s'évertuer à accuser le premier ministre israélien de criminel de guerre, et ainsi de suite.
Oui, là on est dans le... on est un petit peu dans cette géopolitique mondiale, dans un jeu de rôle. La Turquie, elle défend son intérêt, hein, ses déséquilibres. Elle défend les intérêts de son pays. Mmh. Aujourd'hui, elle est obligée à Gaza de s'opposer à Israël parce que sa population ne tolérerait pas qu'il en soit autrement. La population musulmane de Turquie est extrêmement remontée contre Israël et donc Erdogan est obligé de temps en temps, c'est un bon politicien, est obligé de prendre le parti de sa population, hein, et pour continuer d'exercer le pouvoir. Donc, pour l'attitude vis-à-vis d'Israël, c'est comme ça. Par contre, dès l'instant où les intérêts sont communs, par exemple, dans l'affaire entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, Israël a des raisons d'être allié de l'Azerbaïdjan, la Turquie a d'autres raisons d'être l'allié de l'Azerbaïdjan, et donc, curieusement, la Turquie et Israël se retrouvent dans le même camp. Selon les sujets, la Turquie bascule d'un camp dans l'autre. Mais ce que je pense, c'est qu'à terme, la Turquie va choisir un camp. La Turquie est en train de regarder et d'observer le monde. Elle voit bien, la Turquie, que le bras de fer est en train d'être gagné par les BRICS, par le camp de la multipolarité, par l'organisation de coopération de Shanghai. Et donc la Turquie, tôt ou tard, va demander son adhésion à l'organisation de coopération de Shanghai et aux BRICS.
Et d'ailleurs, elle est déjà devenue le hub de l'exportation du gaz russe vers l'Europe après le sabotage Nord Stream 1 et 2.
Bien sûr.
Avec Turkish Stream.
La Turquie aura de plus en plus d'intérêt à se lier à l'Organisation de coopération de Shanghai, dont elle est membre observatrice depuis déjà 13 ans. Donc, elle est qualifiée pour entrer dans l'Organisation de coopération de Shanghai si elle en fait la demande. Mm-hmm. Et elle peut en faire la demande, pourquoi pas. Les États-Unis, il faut se souvenir, avaient fait la demande pour entrer dans l'Organisation de coopération de Shanghai.
Ah, ça, je ne le savais pas. Hein? Ça, je ne le savais pas.
Début, ah, si, ils ont fait la demande au titre de leur position, leur position en Asie, avec
dans le Pacifique.
Les possessions US, les territoires US qui se trouvent en mer de Chine et ailleurs, enfin, dans cette région-là. Donc, puisque la Chine en faisait partie, eux ont demandé d'en être au moins observateurs. Les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai l'ont rejeté. Hein. On dit non. Ils n'ont pas été admis. Mais ils avaient fait la demande. Hein. Donc, pourquoi en faisant la demande, les États-Unis montraient qu'on pouvait être à la fois dans l'OTAN et dans l'Organisation de coopération de Shanghai, ce qu'est un peu la Turquie. La Turquie, elle est dans l'OTAN, mais elle a déjà un pied dans l'Organisation de coopération de Shanghai, puisqu'elle est membre observateur et qu'elle pourrait être élevé au rang de membre à part entière si elle le demande. Et à mon avis, la demande ne va pas tarder. Avec le déclin occidental observé par la Turquie, la Turquie, elle va pas choisir le camp des perdants. Elle va choisir le camp des gagnants de demain. Elle est pas idiote. Hein.
D'accord. Alors, la question suivante, Général de Lavarde, lors d'une audition à l'Assemblée nationale française fin octobre, le général-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill, a annoncé un projet d'augmentation significative de la réserve militaire. Et la loi de programmation militaire et de défense 2024-2030 fixe l'objectif d'atteindre un ratio d'un réserviste pour 2 militaires en service actif. Donc on estime qu'à cette époque, l'armée comptera environ 50 000 réservistes contre 24 000 aujourd'hui. Et aussi, la France prévoit d'augmenter la taille de ses forces armées à 275 000 personnes d'ici 2030. Et elle compte donc affecter à ça un budget annuel de défense de 43,9 milliards d'euros à 69 milliards d'euros. Il est également prévu d'augmenter l'âge maximum pour être dans la réserve de 65 à 70 ans et même jusqu'à 72 ans. Alors, comment expliquez-vous ça? Est-ce que la France a vraiment les moyens de d'augmenter ses effectifs militaires
Pour quel but? Là encore, on est dans les effets d'annonce, qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Hein, augmenter, avoir des réservistes de 72 ans, vous vous rendez compte un peu la tête de votre armée, quoi. Un soldat, c'est un soldat, même un général doit être quelqu'un de jeune. J'entends par jeune, on est encore jeune jusqu'à 50, 60 ans, mais on est plus jeune à 72 ans, hein, il faut arrêter, quoi. Et donc là, on est dans les effets d'annonce. Jamais le budget ne sera de 69 milliards d'euros, hein, dans un avenir en 2030. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Hein. Ce sont des effets d'annonce. Alors, on ne manque pas d'effets d'annonce. Moi, j'ai vécu de très nombreuses lois de programmation militaire. Je sais ce que c'est qu'une loi de programmation militaire. D'accord. Dans une loi de programmation militaire, vous prévoyez de dépenser, par exemple, je vais vous donner un schéma, quoi, pour comprendre. Vous prévoyez de dépenser 100 milliards sur 5 ans. Mais la première année, vous en dépensez 6 ou 7. La deuxième année, 6 ou 7. Donc le dirigeant qui fait la loi, il engage ses successeurs. Et il repousse les grosses dépenses, c'est-à-dire pour arriver à 100 milliards, en 5 ans, si vous dépensez 20 milliards les deux prochaines années, vous devez dépenser 80 milliards dans les 3 années suivantes. Hein, donc ça n'est pas raisonnable. Et d'ailleurs, moi j'ai vécu des années et plusieurs plans de programmation militaire. Aucun d'entre eux n'a été respecté pour la bonne raison que quand les successeurs de ceux qui sont en place au pouvoir arrivent, la première chose qu'ils font, c'est d'arrêter la loi de programmation militaire en cours, parce qu'ils voient venir les grosses échéances, les grosses dépenses à payer, et d'en fabriquer une nouvelle qui est bâtie sur le même modèle. Donc aucune loi de programmation militaire n'est respectée. Donc quand on vous dit qu'il y aura 69 milliards d'euros ou de dollars en 2030, C'est complètement hors sol. Ça ne se fera pas. Et ça ne se fera d'autant moins que notre pays est surendetté. La dette a explosé. On est à plus de 3 000 milliards d'euros de dette. Et ça n'est pas prêt de s'arranger avec le coût de l'énergie qui explose, avec l'inflation qui explose. Donc, on n'aura pas les moyens économiques de réaliser ces rêves. Parce que ce sont des rêves. Donc, cette armée, moi, je suis rentré dans une armée où il y avait des millions de réservistes parce qu'il y avait le service national.
Oui.
Et que toute personne ayant fait son service national était un réserviste en puissance. Et aujourd'hui, il n'y en a plus de service national déjà depuis 30 ans. Donc, les classes de réservistes, alors on essaye de faire du nombre en prolongeant les dates limites de service jusqu'à 72 ans, mais tout ça, c'est je veux pas dire que c'est pitoyable, mais ça n'a aucun sens militaire. On ne fait pas une armée avec des réservistes de 72 ans, ça n'est pas vrai.
D'accord. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Général Dominique Delavarde, je vous remercie pour tous ces éclairages. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans une autre émission pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
Merci à vous et à vos auditeurs de m'avoir écouté. Au revoir.
Au revoir. C'était le général Dominique Delavarde, ancien chef situation renseignement guerre électronique à l'état-major interarmée de planification opérationnelle de l'armée française à la retraite. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.